Le Décaméron. Les deux rivaux. Deux Lombards, l'un connu sous le nom de Guy de Crébonne, l'autre sous celui de Jaconin de Pavie, tous deux déjà vieux et cassés par les fatigues de la guerre, comme gens qui avaient porté les armes dès leur plus tendre jeunesse, se retirèrent dans la ville de Fano pour y finir leurs jours dans le repos. Quelques temps après y avoir fixé leur séjour, Guy tomba dangereusement malade. Comme il n'avait ni parents ni amis en ce qu'il eut plus de confiance qu'en Jacomin, avec lequel il s'était lié dans le service, il le laissa en mourant dépositaire de tout son bien et d'une petite fille qu'il avait avec lui âgée d'environ 10 ans, des aventures de laquelle il l'instruisit fort au long. Il arriva sur ces entrefaites que les troubles qui avaient longtemps agité la ville de Faenza s'étaient apaisés. Il fut libre à chacun de ses anciens habitants d'y retourner. Jacomin, qui en était sorti pour éviter les malheurs de la guerre, sachant qu'elle avait un peu repris sa première forme et sa splendeur, alla s'y établir avec toute sa fortune et emmena avec lui la petite fille qui lui avait été confiée. Il l'aimait comme si elle eût été sa propre enfant. Elle embellissait si fort en grandissant qu'elle devint en peu de temps une des plus jolies et des plus aimables demoiselles de la ville. Plusieurs jeunes gens s'empressèrent de lui faire la cour. Les plus assidus étaient un certain Jeannot de Séverin et un nommé Minguin de Mingol, tous deux bien faits, de jolies figures et fort poilis. Comme ils en étaient l'un et l'autre éperdument amoureux, ils devinrent ennemis irréconciliables, aussitôt qu'ils se reconnurent rivaux. La demoiselle touchait à sa 15e année, était par conséquent en âge de se marier. Chacun d'eux se serait estimé heureux de l'avoir pour femme si on eût voulu la leur accorder, mais, voyant qu'on la leur refusait sur de vains prétextes, ils formèrent l'un et l'autre, chacun de son côté, le projet de l'enlever. Voici les moyens qu'ils mirent en usage. Le vieux Jacomin avait une vieille servante et un valet nommé Crivel. Celui-ci aimait beaucoup l'argent et le plaisir et était par conséquent facile à se laisser corrompre. Jeannot fit connaissance avec ce valet, lui découvrit à propos son amour, le pria de le servir dans son dessein et lui promit de le bien récompenser s'il venait à bout de l'exécuter. « Oh, tout ce que je puis faire pour vous obliger, répondit Crivel, c'est de vous introduire dans la maison quand mon maître aura soupé dehors, car tout ce que je dirais à la demoiselle en votre faveur ne servirait de rien. Le pas le moins de crédit sur son esprit, et je ne voudrais pas me hasarder à lui proposer une chose qui pouvait la fâcher. Voyez si cela vous accommode, alors je vous tromperais si je vous promettais davantage. » Jeannot lui dit qu'il n'exigerait pas autre chose de lui, et ils en restèrent là. Minguin, de son côté, avait mis la servante dans ses intérêts. Il avait fait plusieurs ambassades qui avaient presque déterminé la demoiselle en sa faveur. Ce qui est certain, c'est qu'elle l'avait porté à consentir de le recevoir la première fois que son tuteur sortirait la nuit. Les choses étaient en cet état lorsque Jacomin fut invité à souper chez un de ses amis. Crivel le fit savoir incontinent à Jeannot, qui, à un certain signal, devait trouver la porte ouverte. De son côté, la servante, qui ne savait rien de l'intrigue de Crivel, fit avertir Minguin de l'absence de son maître, en le priant de se tenir près de la maison afin d'y entrer au signal qu'il devait donner. La nuit étant venue, chaque amoureux, qui craignait la rencontre de son rival, se précautionne d'armes et d'amis, de peur de surprise, et va se poster dans l'endroit qu'il juge le plus convenable. Minguin alla avec ses gens chez un de ses amis, dont la maison était voisine de celle de la demoiselle, pour y attendre le moment du rendez-vous. Jeannot se porta avec sa troupe dans un endroit plus éloigné, après avoir laissé toutefois un de ses gens près du logis de la dame pour guetter le moment où la porte s'ouvrirait. Quand Jacomin fut sorti, le valet et sa servante firent de leur mieux pour se défendre l'un de l'autre. « Non, 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 non !» Quand Jacobin fut sorti, le valet et la servante firent de leur mieux pour se défaire l'un de l'autre. Crivelle voulait que la servante se couchât, et la servante s'efforçait de réunir Crivelle sous mille prétextes différents. « Mais vas-tu te promener, lui disait-elle, pour aller ensuite au-devant de notre maître. Et toi, répondait le valet, pourquoi vas-tu pas te coucher à présent que t'as soupé ?» Et comme ils avaient intérêt l'un et l'autre à ne pas s'éloigner, chacun ne voulut démarrer. Crivelle, ennuyé de ces contestations, et voyant que l'heure approchait, courut ouvrir la porte, quoi qu'il dût lui arriver. Jeannot entre aussitôt, suivi de deux de ses compagnons, et se met en devoir d'emmener la demoiselle qu'il trouve dans le salon occupée à coudre. Et la belle de pousser les hauts cris, et la servante d'en faire autant. Minguin courut au bruit. Les ravisseurs étaient déjà dans la rue. Ils font sur eux l'épée à la main et menacent de les tuer s'ils ne lâchent pas leur proie. Pendant qu'on se chamaillait ainsi de part et d'autre, les voisins, munis d'armes et de flambeaux, étant accourus en diligence, séparent les combattants et, apprenant la violence de Jeannot, se déclarent en faveur de Minguin, délivrent la nouvelle Hélène et la remettent dans la maison de son tuteur, qu'elle appelait sans cesse dans son affliction. Avant que le tumulte fût apaisé, les sergents du commandant de la ville survinrent pour mettre le holà et firent plusieurs prisonniers, au nombre desquels furent Jeannot et Crivelle, son premier complice. Il est aisé de se figurer le chagrin que cette aventure causa à Jacobin lorsqu'il fut de retour. Il était dans la plus grande affliction. Cependant, voyant que sa pupille était parfaitement innocente, elle n'avait eu aucune part à la conduite de Jeannot, il se consola un peu et résolut de la marier le plus tôt qu'il lui serait possible, afin de prévenir de pareilles aventures. Les parents de Jeannot et ceux de son rival, instruits à fond de la conduite de ces jeunes étourdis, et craignant que Jacobin ne voulût poursuivre cette malheureuse affaire, qui aurait mal tourné pour eux, s'empressèrent le lendemain d'aller lui faire des excuses et de le supplier d'arrêter les poursuites, s'offrant de lui donner toutes les satisfactions qu'il lui plairait d'exiger. « Songez que ce sont des jeunes gens écervelés, incapables de sentir les conséquences d'une démarche aussi criminelle. Nous vous demandons grâce pour leur étourderie, et nous vous prions de l'oublier, afin qu'elle n'atteigne en rien l'estime et l'amitié qui nous ont unis jusqu'à ce jour. « Messieurs, leur répondit Jacobin, que l'âge et l'expérience avaient rendu sage et prudent, je vous suis si attaché et fait tant de cas de votre mérite que quand je serai dans mon pays, comme je le suis dans le vôtre, vous me trouveriez en ceci, comme en toute autre chose, disposé à faire tout ce qui peut vous être agréable. Le sacrifice de mon ressentiment me coûte d'autant moins. Vous êtes vous-même intéressé dans l'insulte qui a été faite à la jeune demoiselle confiée à mes soins. Vous saurez qu'elle est native ni de Crémone ni de Pavie, comme vous pouvez l'avoir imaginé. Elle est votre compatriote, née à Faenza même, sans que celui qui me l'a remise en mourant et moi n'y ont jamais pu découvrir de qui elle est fille. » Il fut surpris d'apprendre que cette demoiselle était de Faenza. Et après avoir remercié Jacobin de son honnêteté, ils le prièrent de leur dire par quelle aventure elle était tombée entre ses mains. « Guy de Crémone, leur répondit-il, avec lequel j'ai longtemps porté les armes, était de ses intimes amis. Peu de jours avant sa mort, il me dit que lorsque cette ville fut prise par l'empereur Frédéric et livrée au pillage, il entra avec plusieurs de ses compagnons dans ma maison, que ceux qui l'occupaient venaient d'abandonner et qu'il trouva pleine de richesses. Et comme il en sortait, il rencontra sur un escalier cette fille, qui, dès qu'elle le vit, l'appela son père. Et ce mot, prononcé d'un ton tout à fait tentant, le toucha de compassion pour cet enfant. Il pouvait alors avoir 2 ans. Il la prit avec lui, il eut soin dans ce moment, et l'emmena à Fano, où il est mort. C'est là qu'il m'a laissé cette fille avec tout son bien, en me chargeant de la marier quand il en serait temps, et de lui donner tout ce qu'il m'a remis pour elle. Si je ne l'ai pas encore mariée, c'est parce que je n'ai point trouvé de parti qui me parut sortable. Mais je me donnerai des mouvements pour en trouver bientôt, afin de ne plus l'exposer aux folies des jeunes gens. Le hasard voulut qu'il y eut dans la compagnie un certain Guy Humain, qui, s'étant trouvé au saccagement de la ville de Faenza avec Guy de Crémone, savait très bien que la maison qui avait été pillée appartenait à l'un des assistants. Il s'approche alors du personnage. « Bernardino, lui dit-il, vous avez fait attention à ce que vient de dire Jacomin ? La chose vous regarde en propre. Ben, « J'en ai été frappé aussi bien que vous, répondit Bernardino, et je songeais dans ce moment à la petite fille que je perdis alors et qui serait aujourd'hui de l'âge de celle dont parle Jacomin. « Mais c'est assurément la vôtre, reprit Guillemin, n'en doutez pas, car elle me souvient d'avoir autrefois entendu faire par Guy de Crémone la description de la maison qu'il avait pillée. Et d'après son récit, il m'a toujours semblé que c'était celle que vous aviez. D'après cela, je suis persuadé que c'était votre fille qui l'emportait. Ne pourriez-vous pas la connaître à quelques marques ? Voyez-la, je suis certain que vous la reconnaîtrez. » Bernardino se ressouvint qu'elle devait avoir une marque en forme de croix sur l'oreille gauche, provenant d'une loupe qui lui avait fait couper quelque temps avant la prise de Faenza. Il pria alors Jacomin de lui faire voir cette demoiselle pour vérifier ce qui en était, ce qui lui fut accordé sans délai. Aussitôt qu'il la vit, il crut voir le visage de sa femme, tant elle lui ressemblait. Mais voulant quelque chose de plus décisif, il pria Jacomin de lui permettre de regarder près de l'oreille gauche de la fille. Après en avoir obtenu la permission, il s'approcha de la demoiselle, leva ses cheveux, vit la croix, et ne pouvant plus douter que ce ne fût véritablement sa fille, il pleure de tendresse et l'embrasse tendrement, malgré la petite résistance de la pupille, qui paraissait honteuse de ce qui se passait. Puis, se tournant vers le tuteur, « Ben, c'est bien ma propre fille, lui dit-il, tout transporté de joie. « Oh oui, ce fut ma maison, que pilla Guy de Crémone. Ma femme fut si surprise et si alarmée qu'elle oublia sa fille. Nous avons cru jusqu'à présent qu'elle avait péri dans la maison, qui fut brûlée en grande partie après le pillage. » La demoiselle, entendant ce vénérable vieillard parler de la sorte d'un air vraiment attendri et passionné, ne douta point qu'il ne dit la vérité. Et courant l'embrasser à son tour, elle mêla ses larmes aux siennes. Bernardino envoya incontinent quérir sa femme, ses autres enfants et ses parents. Il leur montra sa fille et leur raconta tout ce qui s'était passé. Il la mena ensuite dans sa maison, avec le consentement de Jacomin, où elle fut caressée de sa mère, de sa frère et de ses sœurs. Le commandant de la ville, qui était un galant homme fort porté à rendre service aux honnêtes gens, ayant appris l'aventure et sachant que Jeannot, qu'il tenait prisonnier, était fils de Bernardino et frère, par conséquent, de la demoiselle qu'il avait voulu enlever, donna un tour favorable à l'affaire, raccommoda les deux rivaux et engagea Bernardino à marier sa fille avec Minguin, ce qui fut fait avec l'approbation générale de toute la parenté. Crivelle et les autres prisonniers furent mis en liberté. Minguin, au comble de la satisfaction de posséder enfin celle qu'il adorait, donna le jour des noces une fête des plus magnifiques dans la maison de son beau-père. Il conduisit ensuite sa femme chez lui et vécut toujours avec elle dans la plus parfaite union.